Bonsoir à toutes et à tous. En ce huitième jour, tandis que nous avançons vers la fin de notre neuvaine en l'honneur de Marie, l'Immaculée Conception, nous méditerons la dernière supplication du Subtuum Presidium. De tous les dangers, délivre-nous toujours. Cette prière transmise à travers les générations demeure une demande ardente qui continue aujourd'hui de résonner dans le cœur de tous les chrétiens. Nous implorons la Mère du Sauveur de nous délivrer non seulement des dangers visibles qui menacent nos pas, mais aussi et peut-être surtout de ces périls cachés qui habitent le cœur et surgissent du monde spirituel avec les anges déchus. Tout ce qui nous enchaîne notre liberté, abat notre courage ou souffle le désespoir. Cette supplication rejoint la dernière demande du Notre Père, la prière même de Jésus. Délivre-nous du mal, que l'on peut traduire plus justement encore par « délivre-nous du malin ». Sans le Christ, cette lutte contre le malin est vaine. Jésus, et lui seul, par son sang, a remporté la victoire, assisté de la Vierge Marie et des anges fidèles, comme Saint Michel. La mission du Christ culmine dans la délivrance du mal, personnifié par Satan, le diabolos, celui qui divise, qui s'oppose au dessein divin. L'Église a toujours reconnu que ce combat ne peut être livré sans la grâce du Christ et jamais non plus sans le secours maternel de Marie, celle qui, par son humble fidélité, écrase la tête du serpent. Oui, le mal n'est pas une simple abstraction conceptuelle ou un mécanisme psychologique. Il se manifeste comme un adversaire réel, un ange déchu qui cherche à détourner l'homme de Dieu. Reconnaître sa présence sans crainte, mais dans la foi, fait partie du discernement spirituel qui ouvre à la lumière du Christ. Et la bonne nouvelle est que Marie, notre mère, peut collaborer à notre libération parce qu'elle-même a été préservée de toute atteinte du mal, immaculée dès sa conception, et parce qu'elle participe dans la dépendance totale à son Fils, à l'œuvre de la rédemption. S'approcher d'elle, c'est entrer dans une zone de lumière où l'ennemi n'a plus de prise. C'est se placer dans la compagnie de celle dont l'Apocalypse dit « Un signe grandiose apparu dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Elle nous aide à accepter d'être délivrés, ce qui implique de reconnaître humblement que nous sommes parfois esclaves de nos péchés, de nos faiblesses et même d'influences spirituelles néfastes. Accepter cette libération, c'est d'abord accueillir la miséricorde divine qui suppose de confesser la misère de notre cœur, ce que certains appelaient la miseria cordis. C'est une démarche d'humilité profonde, car elle nous invite à voir nos limites non comme des échecs insupportables, mais comme des occasions pour Dieu d'agir dans sa divine miséricorde. Et quelle joie dans cette reconnaissance! Car nous avons un Sauveur qui a déjà triomphé. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Marie, par la grâce de son Fils, devient ce signe grandiose dans le ciel. Elle est la nouvelle Ève, victorieuse de l'antique serpent qui avait trompé l'humanité aux origines. Cette femme, poursuivie par cet antique serpent emporté dans le désert, loin du danger, protégé par les deux ailes du grand aigle, au refuge que Dieu lui a préparé, là où elle est nourrie, protégée et déjà victorieuse. Ainsi, dès que nous entrons sous son manteau maternel, nous sommes entraînés avec elle dans ce lieu sûr où l'adversaire ne peut plus rien. En elle, nous trouvons un refuge sûr, une compagne fidèle qui nous délivre de tous les périls spirituels. Dans la tradition du Carmel, nous l'avons médité au troisième jour de notre neuvaine. Cette présence protectrice de Marie se manifeste particulièrement à travers la dévotion du Saint-Scapulaire. Ce petit bout d'étoffe, humble tissu que l'on porte contre la peau, qui peut être remplacé par la médaille du scapulaire, est comme un signe discret qui nous rappelle constamment que Marie est là, à nos côtés, comme une mère qui tient par la main son enfant dans la rue ou qui reste à son chevet lorsque celui-ci souffre, avec le doux murmure de Marie « Ne crains pas, je suis là, je te conduis à Jésus ». La petite Thérèse a parfaitement compris ce rôle maternel de Marie dans nos vies. Dans ses écrits, elle parle souvent de Marie sans toujours la nommer explicitement, comme nous pouvons le lire à la fin du manuscrit B. Elle décrit, nous l'avons vu, en réalité le cœur immaculé de Marie, la première petite aux yeux de Dieu, la plus humble, la plus pauvre, la plus dépendante de la miséricorde du Père. Marie est la première à avoir vécu la petite voix. Elle en est le modèle parfait. Dans plusieurs méditations, j'ai souvent évoqué la petite voix de confiance et d'abandon, sans jamais prendre le temps d'en dévoiler la profondeur, mais en exprimant juste ses fruits. Mais quelle est-elle vraiment? Que Thérèse a-t-elle découverte? Que Thérèse a-t-elle découvert pour que l'Église la reconnaisse comme docteur? D'où vient cette géniale intuition qui continue d'inspirer tant de chrétiens? Le pape Saint-Jean-Paul II, en la proclamant docteur de l'Église, dira que Thérèse est l'experte dans la science d'amour. Je cite, « Thérèse de Lisieux, que j'ai proclamé docteur de l'Église comme experte de la scientia amoris. » Thérèse, comme de nombreux saints et saintes avant elle, a puisé à la même source, celle de l'oraison silencieuse. Écoutons-la. Tous les saints l'ont compris, et plus particulièrement, peut-être, ceux qui remplissent l'univers de l'illumination de la doctrine évangélique. N'est-ce point dans l'oraison que les saints Paul, Augustin, Jean de la Croix, Thomas d'Aquin, François, Dominique et tant d'autres illustres amis de Dieu ont puisé cette science divine qui ravit les plus grands génies? Alors, pour comprendre le cœur de Marie dans sa vie, il nous faut suivre Thérèse au moment où elle pressent avec une lumineuse simplicité cette petite voix bien droite, bien courte, une petite voix toute nouvelle. Une voix, dit-elle encore, toute de confiance et d'amour. En relatant sa découverte, nous apprenons que la sainteté n'est pas d'abord un sommet réservé à quelques grands mystiques ou ascètes, mais qu'elle est un chemin pour les petits, les humbles, mais aussi les audacieux qui se laissent saisir par la miséricorde du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. C'est là que la petite Thérèse ouvre pour nous tous une porte ou un passage et même un raccourci, celui d'une vie livrée entièrement à la miséricorde où l'abandon devient la forme la plus pure de l'amour. Pour ce faire, il nous faut revenir à un moment décisif de sa vie qui se situe vers la fin de l'automne 1894. Elle pressent depuis longtemps que Dieu attend d'elle une voie nouvelle, un chemin pour les petites âmes. Mais il lui manque une lumière. Celle-ci viendra grâce au carnet biblique de sa sœur Céline, sur lequel Thérèse lit deux versets, l'un du livre des Proverbes, l'autre du prophète Isaïe. Ces deux versets de l'Écriture sainte deviendront le fondement scripturaire de toute sa doctrine. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Et, comme une mère caresse son enfant, je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein. Ces paroles ont révélé à Thérèse que Dieu ne demande qu'une chose, une confiance totale en son amour miséricordieux, une foi dépouillée, l'acceptation joyeuse d'être petit, fragile, voire incapable. Au lieu de s'attrister de ses faiblesses, elle doit les accepter, les aimer même. Thérèse comprend que la sainteté n'est pas une conquête, mais un abandon. Elle ne doit pas grimper uniquement par l'escalier ardu des vertus héroïques, elle doit se laisser porter par les bras de Jésus comme un enfant porté sur les épaules de son Père. C'est alors que s'éclaire sa vocation. Elle sera l'amour dans le cœur de l'Église et elle comprend que cet amour, pour être vrai, doit être tout offert, tout brûlé, tout livré. L'amour m'a choisi pour Holocauste, dit-elle. Il faut que l'amour s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Ainsi, la petite voix n'est pas une option douce ou facile. Elle est audacieuse, radicale, car elle engage tout l'être dans une offrande à l'amour miséricordieux. Il ne s'agit pas de que rien ne coûte, qu'il s'agit d'accepter de ne pas pouvoir compter sur ses propres forces, mais de laisser le Christ accomplir en nous, à travers nos pauvretés, son œuvre de sainteté. Le cardinal Jean d'Agnellou a décrit l'enfance spirituelle en une formule fulgurante. Je le cite. L'enfance spirituelle, c'est l'infini du désir dans la totale impuissance. Cette description pourrait être même le portrait de Thérèse et nous pourrions dire que Thérèse, c'est l'infini du désir dans la totale impuissance. Cette synthèse décrit parfaitement la trajectoire de la petite voix. Un immense désir de sainteté confronté à une impuissance radicale qui se résout dans l'espérance en Dieu. Thérèse exprime cela magnifiquement dans ses manuscrits autobiographiques. Le manuscrit B, écrit en septembre 1896 pour sa sœur et marraine Marie du Sacré-Cœur, est considéré comme la charte de la petite voix. Thérèse y décrit sa découverte de l'amour infini de Dieu et ses immenses désirs de sainteté et apostolique. Elle veut aimer Dieu autant que les plus grands saints. Elle veut être apôtre, prêtre, missionnaire, docteur, martyr. Elle trouve sa vocation qui est d'être l'amour au cœur de l'Église. Elle veut tout, mais elle découvre sans cesse qu'elle ne peut rien seule. Ô mon Jésus, à toutes mes folies, que vas-tu me répondre ? Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne ? Cependant, à cause même de ma faiblesse, tu t'es plu, Seigneur, à combler mes petits désirs enfantins, et tu veux aujourd'hui combler d'autres désirs plus grands que l'univers. Alors, au lieu de se décourager, elle s'élance plus encore dans l'espérance. Le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Le désir de la sainteté vient de Dieu. Nous le lisons déjà dans le livre du Lévitique, où Dieu s'exclame « Soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. » Et Jésus dira « Soyez parfaits, comme votre Père du ciel est parfait. » Tandis que l'impuissance à répondre à cette sainteté vient de nous. La sainteté se réalise dans l'union de notre pauvreté qui est pleinement offerte à la miséricorde divine. Notre cœur aspire à la sainteté, mais nous savons que cette vocation ne s'accomplira jamais par nos propres forces. C'est pourquoi nous devons nous remettre tout entiers entre les mains du Père par la miséricorde de Jésus dans une confiance filiale et un abandon total. Comme Thérèse, nous pouvons reformuler avec une audace née paradoxalement de notre petitesse son élan du cœur. Seigneur Jésus, je ne suis qu'une toute petite enfant, faible et démunie. Pourtant, c'est précisément cette faiblesse qui me donne le courage de m'offrir à ton amour miséricordieux comme une humble victime d'Holocauste. Fais de moi ce que tu voudras. Je m'abandonne à toi, confiante que ton cœur brûlant saura me consumer et me transformer en amour. Ainsi, plus nous nous reconnaissons pauvres et limités, plus l'Esprit Saint peut faire jaillir en nous cette sainte audace, celle de nous jeter dans les bras du Christ, sûr que son amour miséricordieux, tendre et puissant, accomplira en nous bien au-delà de ce que nous osons espérer. Et voilà pourquoi le manuscrit C, dernier écrit de Thérèse, expose le procédé pour parvenir à vivre de la sainteté de Dieu. Pour ce faire, Thérèse utilise l'image moderne de son temps de l'ascenseur qu'elle avait découvert lors de son voyage à Rome en 1887. Au lieu de gravir le rude escalier de la perfection par des efforts héroïques, elle cherche un ascenseur de la miséricorde pour s'élever jusqu'à Jésus. Je cite. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Cet ascenseur, ce sont les bras de Jésus qui porte le petit enfant. Thérèse se laisse porter par les bras de Jésus comme l'enfant que la mère berce et console. La disproportion entre notre petitesse et la sainteté n'est pas un obstacle, car Dieu inspire des désirs qu'il veut exaucer. Cette voie a ceci de nouveau, qu'elle repose entièrement sur la confiance aimante. Et Thérèse répète haut et fort, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. La sainteté n'est donc plus un sommet à gravir par le volontarisme, mais un don reçu. Elle n'est plus une montagne, mais une étreinte. Elle n'est plus une conquête, mais un cadeau offert. Cette petite voie repose sur trois vertus intimement liées et entrelacées. L'humilité, la foi en l'amour miséricordieux, la confiance aimante et l'abandon filial. L'humilité est la porte étroite et, plus encore, le roc, son fondement même sur lequel s'édifie toute la petite voie de Thérèse. Mais attention, l'humilité n'est pas de la modestie. Il ne faut surtout pas la confondre avec cette modestie qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui est un peu extérieur, parfois même un peu calculé, qui se contente de voiler ou d'atténuer ce que l'on est. L'humilité, elle, est tout autre. Elle est le regard de vérité. Elle est l'acceptation paisible, joyeuse et lucide de ce que nous sommes réellement devant Dieu. Certes, des créatures petites, fragiles, voire pécheresses, mais avec des capacités réelles et des désirs de sainteté, peut-être enfouis, qui sont à déployer. Et l'humilité, c'est reconnaître bien sûr que nous sommes aimés infiniment par celui qui nous tient dans l'existence. L'humble ne se diminue pas par fausse humilité, il se voit tel que Dieu le voit. Et c'est précisément parce qu'il accepte jusqu'au fond de voir sa pauvreté qu'il peut se lancer sans crainte dans les bras du Père, par les bras de Jésus. Là où la modestie retient, calcule, se protège, l'humilité désarme, se livre, s'abandonne. Sans humilité, il n'y a pas de petite voix. Avec l'humilité vraie, la petite voix devient un chemin royal, car elle nous met exactement à la place où la miséricorde de Dieu peut nous saisir tout entier. Petite Thérèse dira, avec notre mère Sainte Thérèse, à Sœur Geneviève, dans les derniers mois de son existence, « L'humilité, c'est la vérité. Je ne sais pas si je suis humble, mais je sais que je vois la vérité en toute chose. » Pour entrer dans l'expérience de la miséricorde, il est nécessaire de s'y disposer en reconnaissant nos défaillances sans suffisance, mais bien humblement. C'est l'attitude des pauvres de l'Évangile, comme Marie-Madeleine, Zachée, le publicain et tant d'autres encore. Thérèse ne cache pas ses faiblesses. Elle se sait pauvre, imparfaite et fragile, mais elle accepte avec douceur, sans agitations intérieures. Elle confiait, peu avant sa mort, à sa sœur Céline, « Il m'arrive d'avoir des faiblesses, mais je m'en réjouis. C'est si doux de se sentir faible et petit. » Thérèse nous invite non seulement à admettre nos faiblesses, mais à les accepter avec douceur, sans découragement ni colère orgueilleuse. L'humilité nous garde à la dernière place, loin de la vanité. Rangeons-nous humblement, dit-elle, parmi les imparfaits. Estimons-nous de petites âmes qu'il faut que le bon Dieu soutienne à chaque instant. Pour Thérèse, la seule place sûre est la dernière, celle du publicain de l'Évangile qui n'ose pas lever les yeux. Non parce qu'on aime être pécheur, mais parce qu'on aime se savoir aimer comme on est, dépendant du Père qui relève et guérit. Elle déconstruit, petite Thérèse, toute illusion d'autoréalisation spirituelle que prônent les pseudo-courants spirituels de notre siècle. La sainteté commence lorsque l'on renonce à être saint par soi-même. Sans humilité, il ne peut y avoir de progression dans la vie spirituelle. Aimer sa petitesse, c'est se réjouir d'être une proie pour l'amour de Dieu, un malade pour le divin médecin. L'humilité ouvre à la foi. Foi en quoi ? En un Dieu qui est miséricorde, en assumant notre nature humaine, un Dieu qui s'abaisse vers les petits, qui se penche vers les blessés. La foi en l'amour miséricordieux est donc la seconde vertu. Dieu est révélé comme Père des miséricordes dans le mystère pascal du Christ Jésus. Lui qui était de condition divine, s'est abaissé jusqu'à la mort sur une croix. À la croix, la miséricorde divine s'exprime pleinement. Thérèse l'a découvert dans l'Écriture. À moi, il a donné sa miséricorde infinie, et c'est à travers elle que je contemple et adore les autres perfections divines. Alors, toutes m'apparaissent rayonnantes d'amour. Et bien d'autres textes de l'Écriture la confirment. Dieu est compatissant, comme un père ou une mère pour ses enfants. Thérèse a vécu cette miséricorde dans sa vie, depuis l'amour maternel, paternel, jusqu'aux tendresses divines innombrables. Ces deux vertus de l'humilité et la foi en la miséricorde sont reliées par un pont, la confiance aimante et l'abandon filial, qui nous rapproche de la grâce sanctifiante. La confiance est la charnière de ce pont. La confiance est le désir de sainteté transformé par la petitesse. Elle transforme la petitesse en joie, non en tristesse, en élan et non en paralysie. Elle assainit le désir de toute déviance de l'amour-propre qui singe la confiance en soi. Pour Thérèse, l'amour-propre est le grand ennemi. Il empêche la vraie confiance, il ramène sans cesse à soi-même, il empêche de se donner. La confiance que nous invite Thérèse à vivre rend l'âme légère, disponible, ouverte aux dons de Dieu. Mais prenons garde, la petite voix n'est pas du quiétisme, une passivité oisive ou encore moins de l'illuminisme ou une spiritualité désincarnée. Au contraire, c'est un réel combat contre l'amour-propre, ce fauteur de troubles qui cherche ce qui brille et flatte l'ego. Plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de cet amour consumant et transformant, dira Thérèse. La confiance nous garde dans la dépendance filiale. C'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Enfin, la conséquence de cette confiance est l'abandon filial qui en est le sommet. L'abandon pousse à la mission, au service, au don total de soi. L'abandon filial est le fruit de l'amour, qui est de se laisser porter par Dieu comme un enfant. C'est une intense activité de l'amour où l'on remet tout à Dieu, à chaque instant, dans chaque détail de notre vie. L'abandon est dynamique, il est ancré dans l'humilité, la foi en la miséricorde et la confiance. Revenons maintenant à Marie, cœur de cette neuvaine et fidèle compagne de Thérèse. L'espérance fleurit dans la petitesse et prendre chez soi la Vierge Marie, c'est la prendre pour compagne humble qui délivre de tous les dangers. Dans la petite voie, Marie occupe un rôle fondamental. Elle est celle qui écrase le serpent, celle qui est déjà victorieuse de la victoire de son Fils par son immaculée conception, et elle nous entraîne dans sa victoire. Pour Thérèse, Marie est discrète, maternelle, douce. Elle est celle qui apprend à aimer Jésus, non par des discours, mais par un regard, un geste, une simplicité, une prière. Elle est aussi elle qui nous délivre du mauvais par sa pureté, sa lumière, son humilité, sa douceur. Alors, ne craignons pas notre petitesse, aimons-la, offrons-la et laissons Marie nous conduire sur ce chemin de la petite voie. Que Marie, l'Immaculée, Notre-Dame des Victoires, nous délivre toujours de tous les dangers et qu'elle nous conduise dans l'espérance, comme Thérèse, par la confiance et l'abandon, jusqu'au cœur de Jésus. Amen.